Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, direction l'Amérique avec deux écrivains qui écrivent donc à quatre mains. Les auteurs d'Alabama 1963, plébiscité, qui reviennent avec leur nouveau roman America. Bibliothèque américaine aussi, mais pas seulement. Joël Dicker nous montre de quel livre il se chauffe. Pas de libraire exceptionnellement cette semaine, mais focus sur un salon du livre, les visionnaires. Et puis Héloïse Goy fermera la boutique avec la littérature jeunesse. Mais d'abord donc les invités. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On avait laissé ces deux auteurs en Alabama en 1963 avec un roman noir doublé d'un portrait des États-Unis dans les 60s. Il s'appelait Alabama 1963. Ce roman avec une couverture magnifique, vous vous en souvenez, un pont couvert. On prend 10 ans de plus avec leur nouveau roman America. Avec un S à la fin entre parenthèses, un road trip entre Philadelphie et Los Angeles en 1973. Un livre écrit à quatre mains à nouveau. Bonjour Ludovic Manchette.
Bonjour.
Aucun lien avec Jean-Patrick. Hein.
Non.
Jean-Patrick Manchette, non. L'auteur de Polar célèbre. Et bonjour Christian Niemiec.
Bonjour Nicolas.
Vous retournez aux États-Unis avec ce roman. Vous êtes breton, je crois, pourtant. Pourquoi ?
Alors, c'est moi surtout qui suis d'ascendance bretonne, comme mon nom ne l'indique pas.
Et pourquoi les États-Unis ?
Parce que déjà, c'est un moyen de s'évader pour nous. Quand on écrit, on aime bien avoir de grands espaces. Et puis, à la base, on est traducteur de dialogues de films. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on baigne beaucoup dans la culture américaine par le cinéma et puis la littérature, qui est aussi une littérature qu'on apprécie. Mmh.
Mais vous pourriez faire un polar en Bretagne. Ça, on peut s'évader aussi par la fiction.
Alors quelque chose qui se passerait vraiment, quelque chose qui serait trop proche de nous, vraiment ça nous intéresserait pas beaucoup. Ça, on a besoin, bah, comme Christian le disait, de s'évader, de partir loin et dans l'espace et dans le temps. Quelque chose qui se passerait à Quimper
ou à Brest.
Ou à Brest, on va dire. En 2022, ça, c'est pas quelque chose qui nous fait.
C'est moins rigolo pour vous.
Ouais,
quoi.
C'est ça, tout à fait.
Pour un Américain, ça serait plus chouette, quoi.
C'est ça. En fait, on c'est vrai que dans la plupart des cas, on conseille aux auteurs de parler de ce qu'ils connaissent. Et nous, on adore parler de choses qu'on connaît pas forcément à la base, mais qui nous permet de faire des recherches. Et puis,
qu'on aimerait connaître ou avoir connu.
Mais est-ce que vous connaissez pas parce que vous êtes pas de là-bas mais est-ce que vous êtes parti sur les traces de vos personnages en Alabama? Alors, pas en 63, mais... Et puis là, est-ce que vous avez fait la route Philadelphie-Los Angeles ? Est-ce que vous allez souvent aux États-Unis ou vous n'êtes jamais allé ?
Alors, moi, j'ai vécu aux Christian États-Unis. Niemiec. J'y suis allé très souvent à une époque. J'y allais très régulièrement. Et on avait prévu de faire ce voyage il y a à peu près 2 ans. Et manque de chance, on a été rattrapé par un petit Covid. Donc, on a fait le voyage dans nos têtes.
Et vous, Ludovic ?
Mais en fait, finalement, on s'est dit, c'est pas si grave parce que, Jules Verne n'est jamais allé au centre de la Terre et ni sur la Lune.
Absolument.
Et voilà, on s'est dit, après tout, avec, de toute façon, c'était il y a 50 ans, on aurait beau y aller, on n'aurait pas retrouvé l'Amérique de 1973. D'ailleurs, à un moment, on parle d'un restaurant où elle se rend, notre héroïne. Mmh. Et puis aujourd'hui, c'est un parking. Mmh. Donc, si on y était allé en 2022, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Finalement.
Et puis, de toute façon, c'est une Amérique un peu rêvée.
Fantasmée,
en tout cas,
oui.
Pas dans les clichés, mais une Amérique, oui, fantasmée, c'est ça.
C'est ça, un peu comme... comme le New York de Woody Allen n'existe pas forcément. Enfin,
de toute façon, que ce soit par le cinéma ou par la littérature, on donne toujours une image biaisée de la réalité. C'est un petit peu aussi l'idée. Mais ce côté, effectivement, Amérique rêvée, il est pleinement assumé.
Parce qu'on retrouve des films, de la littérature, on va en parler. Mais alors ce titre, America, avec un S entre parenthèses à la fin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors déjà, c'est drôle parce que notre éditeur, la première chose qu'il nous a dit, quand on lui a proposé ce titre, il nous a dit, mais vous savez, on ne met pas de parenthèse dans un titre normalement. Et on lui dit, ben oui, et alors ? Et il nous dit, ok, ben banco, on y va. Donc, et ce S, effectivement, c'est pour les différentes facettes de l'Amérique que notre personnage va croiser sur sa route.
C'est-à-dire qu'il y a une Amérique et puis des Amériques que va rencontrer l'héroïne qui est Amy. Donc on est à Philadelphie en 1973. Amy, c'est une préadolescente, disons. Mm-hmm. Et ça commence assez mal pour elle, puisqu'on apprend dès la première page qu'elle a perdu sa meilleure amie dans un accident de la route et que sa sœur Bonnie, 17 ans, est partie un an plus tôt pour rejoindre la mansion, c'est-à-dire le manoir de Playboy, et devenir playmate, mais qu'elle n'y est jamais arrivée. En tout cas, on n'a pas de nouvelles d'elle et qu'elle donc elle n'en est jamais revenue non plus. Ça commence mal, mais elle part la rejoindre.
Oui, parce que bon, elle a une famille dans laquelle elle se sent pas forcément à l'aise. Hein. Ses parents sont pas les meilleurs parents du monde. Et après la mort de son amie, en fait, plus rien ne la retient chez elle. Et comme elle était très proche de sa grande sœur qu'elle idolâtre, elle se dit voilà, je suis sûre que Bonnie a réussi à devenir playmate, à atteindre son rêve. Donc je vais la rejoindre. Et le seul moyen qu'elle a de la rejoindre, c'est de partir en bus et puis après en stop.
Alors, tout ça avec son inconscience d'enfant, quoi. Elle part vraiment sans se poser trop de questions, finalement.
En fait, d'enfant, mais vous ne donnez pas son âge. C'est-à-dire que la première fois qu'elle se présente à quelqu'un, elle dit 16 ans, mais on sait qu'elle ment. Ensuite, elle va le dire 15 ans, mais on sait qu'elle ment aussi. Et oui, vous ne donnez pas son âge exact. On le sait à la fin seulement.
Alors, en fait, au départ, elle ne veut pas dire son âge parce qu'elle va acheter un billet de bus. Et comme voilà, elle est assez jeune, elle ne veut pas dire qu'elle va trop loin. Elle n'annonce pas tout de suite qu'elle veut traverser les États-Unis. Donc elle se dit, ça paraîtra moins bizarre si au guichet, je prends un ticket de bus pour la ville d'à côté.
Puis ça évitera qu'on appelle ses parents. Non, mais c'est ça, d'accord pour elle. Mais pour nous, lecteurs, vous pourriez nous donner l'astuce, quoi.
Ben non, autant être l'idée, c'est d'être vraiment avec elle pendant le voyage. Donc on est dans la situation où on voyage à côté d'elle et en fait, on entend et la seule vérité qu'on a, c'est celle qu'elle veut bien raconter.
Alors, c'est un road trip. Mmh. Et en fait, quand elle part, elle avait un tout petit peu d'argent qu'elle avait économisé, mais elle se le fait piquer dès le début. Et donc, elle n'a rien.
Oui, on ne l'a pas aidée.
Et voilà. Mais en fait, si, vous l'avez aidée. Parce que quand on n'a plus rien, la seule chose qui reste à faire, c'est se tourner vers les autres. C'était ça l'idée ?
C'est ça. Bah,
c'est ça. Et puis, justement, le fait qu'elle soit jeune aussi permet qu'on puisse comprendre que des gens aient envie de l'aider. Ce serait une adulte, on aurait moins envie d'aller vers elle et de lui demander ce qu'elle a, ce qui ne va pas. Mais là, quand elle réalise qu'on lui a volé son argent, elle se met à pleurer parce que ça reste une enfant. Et forcément, il y a quelqu'un qui la remarque et qui va lui demander ce qu'elle a et pourquoi elle pleure. Et à partir de là, il va accepter de l'aider, de la prendre un petit bout sur le trajet.
Mais c'est vrai que si elle avait eu cet argent, ça l'aurait beaucoup aidé. Elle aurait pris le bus beaucoup plus longtemps. Elle n'aurait pas fait les rencontres qu'elle va faire aussitôt dans le roman.
Parce que donc c'est un road trip et chaque chapitre est une nouvelle rencontre. On en parle dans un instant. On reprend la route.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre avec Ludovic Manchette et Christian Niemiec pour America avec un S entre parenthèses à la fin. C'est vrai que c'est pas pratique ces titres avec des parenthèses, surtout à la radio. Merci les amis. C'est leur nouveau roman au Cherche Midi. Ce sont les auteurs, je vous rappelle, d'Alabama 1963. Énorme succès il y a 2 ou 3 ans avec ce pont couvert en couverture. Je suis sûr que vous l'avez vu, voire lu. Et cette fois donc dans America, c'est l'histoire d'Amy, une jeune fille pré-ado qui part pour retrouver sa sœur à Los Angeles, qui serait partie devenir une grande playmate. Chacun cherche la gloire qu'il veut. Hein. Et elle n'a jamais eu de nouvelles, donc elle va essayer de la chercher, mais elle est très très jeune pour voyager, surtout qu'elle se fait piquer son argent dès le départ, donc il faut qu'elle fasse des rencontres. Mais à chaque fois, elle change de prénom tout le temps, puisqu'elle ne veut pas se trahir, elle ne veut pas qu'on prévienne ses parents et qu'on vienne la chercher, ou qu'on prévienne la police. Et en fait, à chaque fois, du coup, elle change aussi, en changeant de prénom, elle change d'histoire. Elle invente à chaque fois un truc pour dire pourquoi elle est à Pittsburgh, pourquoi elle est à Columbus, etc. En fonction des avancées et des gens qu'elle rencontre, elle invente une histoire. En fait, elle invente un roman. C'est à ça. Chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre.
Et oui. En fonction aussi des gens qu'elle vient de rencontrer, elle s'inspire un petit peu de ce qu'ils ont pu se dire.
Qu'est-ce qui pourrait lui plaire le plus, quoi, en fait.
C'est
quoi,
ça, ouais. C'est ça.
Un peu un travail d'écrivain, ce qu'elle fait.
Tout à fait, c'est vrai. Il y a des lecteurs qui nous ont dit, mais peut-être qu'on pourrait l'imaginer plus tard devenir écrivaine avec cette imagination débordante qu'elle a. C'est vrai qu'on s'est bien amusé aussi à, à lui inventer toutes ces histoires. Ouais. Et pour revenir sur le côté Playmate, c'est vrai que ça nous faisait rire aussi. À un moment, elle rencontre un routier, et elle voyage avec lui et il a des pin-up accrochés dans son camion.
Ses copines, il dit.
Voilà, et c'est ça, ses copines. Et elle dit si Bonnie réussit un jour, elle finira dans ce camion avec toutes ses autres pin-up. Donc c'est rigolo, c'est ce regard d'enfant qui ne voit pas du tout où est le problème, quoi.
Bah justement, c'est intéressant que vous parliez du routier qu'on rencontre dès le début du roman. Mm-hmm. Évidemment, quand une jeune fille comme ça, qu'on la suit en road trip, on a vraiment très peur pour elle. Et quand elle croise le routier et qu'il lui propose de l'emmener, de faire un bout de route avec lui, il vient de prendre sa défense parce qu'il a vu qu'elle avait plus d'argent et tout, donc on sent qu'il veut l'aider. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher de se dire bizarre quand même. Sauf que le danger sera et jamais là où on l'attend dans votre roman, sinon c'est pas intéressant.
Oui, et puis elle le voit pas du tout le danger, elle le perçoit pas. Je veux dire, c'est quelqu'un qui veut l'aider. Elle se méfie un petit peu parce qu'elle voit qu'il est grand, qu'il est assez impressionnant physiquement, mais elle a pas du tout, elle projette pas du tout l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose de mal, parce que justement, elle a cette naïveté, cette fraîcheur qui fait qu'elle se méfie pas spontanément des gens. Elle veut pas non plus, elle s'en méfie un peu juste dans la mesure où elle veut pas trop se confier à eux.
Voilà, et pas s'attacher aussi, parce qu'elle a perdu sa sœur, elle a perdu sa meilleure amie. Donc elle dit au début du roman voilà, qu'elle ne veut plus de meilleure amie, elle veut pas s'attacher aux gens.
Voilà, c'est une façon aussi de mettre une distance avec les autres, de s'inventer une histoire en fait.
Je ne dis pas vos prénoms et vos noms à chaque fois, on se dit que c'est le même auteur d'une certaine manière, tous les deux vous êtes le même auteur.
Oui,
On est en 1973, c'est pour ça que j'ai passé Growing Up de Bruce Springsteen et qui est pas assez bien avant Born in the USA et tout ça, puisque et 73 c'est particulier comme année.
Alors déjà par rapport à Bruce Springsteen, c'est vraiment ses débuts, il est encore pas totalement inconnu, il est un petit peu connu dans le New Jersey parce qu'il fait déjà pas mal de concerts et puis il a déjà une petite fanbase, mais c'est pas encore la grande star qu'il est appelé à devenir.
Dans la quatrième de couverture, on dit qu'on croise la route de Bruce Springsteen, mais on se dit c'est symbolique, c'est l'Amérique de cette époque-là.
Oui.
Non, mais là, on le rencontre pour de vrai.
C'est ça.
On discute avec lui, enfin, Amy discute avec lui.
Oui, oui. Alors pour ça, évidemment, on s'est bien renseigné. C'est assez compliqué de faire parler des gens existants réellement. Donc évidemment...
Oui, il y a une responsabilité.
Il y a une certaine responsabilité, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Donc on a regardé pas mal d'archives, on a lu son autobiographie et ça nous permet de... Enfin voilà, tout ce qu'il dit est la stricte vérité.
Ah, vous avez calé le voyage d'Amy sur un souvenir de Bruce.
Sur un souvenir de Bruce Springsteen qui raconte...
Sur ce voyage qu'il fait aussi à cette date-là, ouais.
Pour aller, il raconte dans ses mémoires qu'il a traversé donc les États-Unis en roulant non-stop avec son van et puis les
avec
autres
Mad Dog,
voilà,
alias Vinny le batteur,
Clarence, voilà, et les autres qui suivaient en voiture, ils ont traversé les États-Unis comme ça en roulant non-stop nuit et jour.
Tu nous en remets un peu? Merci Boris, c'est vrai que ça donne envie de voyager cette musique, mais en même temps vous êtes fait plaisir, on croise aussi un certain Elton, alors je dis tout de suite que c'est pas un festival de vedettes, hein. Il y a beaucoup d'anonymes, peut-être même encore plus intéressants, mais on sent que vous vous êtes fait plaisir, que vous avez vous-même discuté avec Bruce Springsteen et Elton John.
C'est vrai qu'on on s'est vraiment pas censuré, quoi. On a écrit ce qu'on avait envie d'écrire et on fait rencontrer, Amy rencontre des personnages assez flamboyants qui sont eux-mêmes certains icônes et on avait envie nous aussi du coup de passer un peu de temps avec eux.
Alors on est en 73, évidemment on tombe à un moment sur des hippies, d'ailleurs à chaque fois qu'elle fait une rencontre, j'imagine que vous vous êtes posé la question pour varier les statuts, c'est-à-dire il y a un routier, un mec assez costaud et tout, il y a une serveuse,
qui est un vétéran de la guerre du Vietnam,
vétéran, etc. Et puis donc des hippies, mais c'est un moment particulier pour les hippies parce que dites-vous, dans le roman, on comprend que Charles Manson est passé par là depuis et que ça a créé une forme de désillusion. Je rappelle que Charles Manson, c'était le gourou d'une sorte de secte affiliée aux hippies, même si ça n'avait pas grand-chose à voir, et qu'il a commis des meurtres atroces, notamment Sharon Tate. Et ça a cassé un peu le mythe.
C'est ça, bah, tout de suite, les hippies sont apparus comme étant beaucoup moins sympathiques, quoi. Et ça a un peu refroidi tout le monde. Et bon, il y a eu ça, il y a eu Altamont aussi, avec le concert des Rolling Stones qui a dégénéré, qui a fait. Voilà, ça a été assez dramatique aussi. Donc, bon, c'est un contexte très particulier. On voit que c'est la fin du mouvement hippie. Il y a quelque chose d'assez triste, finalement, dans cette poignée de hippies là, dans ce camp où ils savent que ça va être finalement ils sont pas sûrs d'être encore là dans quelques années, quoi, d'être encore ensemble.
Elle va chercher sa sœur à Los Angeles, même si elle est pas sûre de la trouver. Mais en fait, c'est quoi ce qu'elle cherche? C'est quoi ce qu'elle fuit, Christian Niemiec? C'est pas sa sœur qu'elle cherche, en fait, c'est autre chose peut-être.
Alors elle part avec l'idée de effectivement trouver sa sœur, mais je pense que ce qu'elle cherche, c'est simplement évidemment elle-même. Et puis à se construire une vie loin de ce qu'elle a pu connaître avec ses parents.
Alors c'est chouette parce qu'il y a une carte au tout début, une carte des États-Unis avec son itinéraire. On peut s'y référer régulièrement, ça fait réviser sa géographie aussi. Oui, on fait une petite pause, on s'arrête dans un diner et on reprend la route dans un instant.
Avec plaisir.
Pas de souci.
La voix est libre.
Nicolas Caro. La Voix est libre avec Ludovic Manchette et Christian Niemiec pour leur nouveau roman au Cherche Midi, America, avec un S entre parenthèses à la fin, puisqu'il y a plusieurs Amériques dans ce roman. On traverse ce continent, en fait, d'est en ouest, de Philadelphie à Los Angeles. Amy, l'héroïne préado, elle va chercher sa sœur qui est partie à Los Angeles. Elle part depuis Philadelphie sans argent. Elle va rencontrer plein de gens, enfin c'est un road trip. On traverse aussi l'histoire de cette époque-là, avec notamment le Watergate et d'autres qui passent par là sur le chemin d'Amy sans qu'elle, même elle en ait vraiment conscience toujours. Enfin, ça peut être à la radio par exemple, on prend quelque chose. Mais bon, bref, on traverse cette époque et ce pays, mais on traverse aussi les grands classiques de la littérature, parce que c'est truffé de références. Alors il y a évidemment la Trappe-cœur, l'histoire de Salinger des années 50, où ce jeune garçon Holden Caulfield qui part dans une fugue dans New York, il est tout seul, il a 14 ans. Il y a le Magicien d'Oz, et puis évidemment on tombe à un moment sur Kerouac, Jack Kerouac, sur la route dont on vient de fêter le centenaire. Et effectivement, c'est un peu l'itinéraire d'ailleurs. Est-ce que ce serait même pas le copier-coller de l'itinéraire de Kerouac? Est-ce que vous êtes inspiré beaucoup de Sur la route?
C'est l'itinéraire, pas forcément, mais...
Ludovic Manchette.
Par exemple, il y a des jumeaux dans le roman qui s'appellent Jack et Neil pour Jack Kerouac et Neil Cassidy. Voilà. Donc il y a des références comme ça, mais à Sur la route, mais même à Lolita par exemple, parce que voilà, on a une jeune ado dans le roman, donc il y a ces références là. Il y a Alice au pays des merveilles aussi, donc c'est pareil, on s'est fait plaisir aussi.
Et puis c'est important pour nous de mélanger tout ce qui est un petit peu pop culture. C'est vraiment un moyen de s'immerger dans cette époque-là. Et Amy elle-même regarde la télé, on dit qu'elle va à la bibliothèque, qu'elle lit. Alors évidemment, elle n'a pas lu Sur la route. Mais ça nous fait plaisir.
Oui, il y a un personnage qui lui dit « t'as pas lu Sur la route ?» C'est un personnage un peu cool et tout. Elle lui dit « non, moi je lis Thomas Hardy, qui est beaucoup plus classique. » Et il lui dit « ah d'accord, t'es une Othello. » Et Jack Kerouac, c'est cool, quoi.
Voilà, c'est ça. Et alors, entre parenthèses, elle a pas lu Thomas Hardy. Hein. C'est quelqu'un dans
une
de ses rencontres qui lui a prêté le livre et elle le prend, mais vraiment pour faire plaisir, parce qu'elle est vraiment pas sûre de le lire.
Plus ça pèse dans son sac, c'est pas pratique.
Mais voilà, ça nous amusait aussi qu'elle se serve, quand elle donne des prénoms différents de présentateurs télé ou d'actrices qu'elle aimait ou de personnages de films, de chanteuses.
Elle est amoureuse de Ryan O'Neill, l'acteur de Love Story, qui compte bien retrouver aussi à Hollywood d'une certaine manière. Elle le cherche aussi.
C'est un rêve. Elle se dit que comme il habite là-bas et qu'elle va là-bas et que sa sœur est certainement devenue une playmate célébrissime, elle aura peut-être l'occasion de croiser sa route.
Mais on dit dans le roman qu'on part pour deux raisons, soit parce qu'on fuit quelque chose, soit parce qu'on cherche quelque chose. Et effectivement, elle, à la fois, elle fuit sa petite vie, ses parents qui ne sont pas très, très sympathiques. Puis à la fois, elle va chercher sa sœur et peut-être aussi Ryan O'Neill quelque part.
C'est une partie dans laquelle on se permet d'ouvrir la porte de la cuisine des écrivains, c'est-à-dire qu'on fouille un peu dans les coulisses, voir comment vous travaillez et tout. Et alors avec vous, c'est particulièrement intéressant puisque vous écrivez à quatre mains. Et quand on dit ça, on s'imagine deux personnes devant un ordinateur et chacun son côté comme sur le piano, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est impossible. Donc comment ça fonctionne ?
Bah, en fait, techniquement, c'est à deux mains. C'est Ludovic qui est au clavier parce qu'il est un peu plus rapide que moi.
Parce qu'il écrit plus vite.
Voilà, c'est ça. Il est plus rapide que moi pour taper. Mais on est vraiment côte à côte. Et en fait, quand on commence à travailler, on a déjà un plan. En fait, on travaille à partir d'un plan. Donc, quand on rentre dans la phase d'écriture, on sait exactement quelle scène on doit écrire. Et il y en a un qui commence à lancer une phrase. Et puis, on rebondit. Et en fait, on se fait du ping-pong comme ça, verbal, jusqu'à ce qu'on arrive à la phrase qui nous plaise à tous les deux. Et on le sait en même temps, généralement. Quand on tient la bonne phrase, on le sait.
Alors quand on dit ça aux gens, ça leur paraît un peu fastidieux parce qu'ils s'imaginent faire ça avec le premier venu et ça, ce serait l'enfer, quoi. Mmh. Évidemment, nous, on s'entend, enfin, on est toujours d'accord sur tout. On a eu une chance folle, il faut dire, de se rencontrer, d'être à ce point-là sur la même longueur d'onde et de vouloir raconter les mêmes histoires, d'être oui, finalement toujours d'accord.
Oui, de vouloir surtout écrire le même livre. Donc, y a pas... Et puis, on travaille comme ça aussi en adaptation depuis une quinzaine d'années.
De dialogues de films, on traduit des dialogues de films.
Ah oui, ça, on va en parler aussi. Mais sur l'écriture de romans, il n'y a jamais de frustration. Il n'y en a jamais un qui lâche en disant « Bon, bah, allez, la prochaine fois, ce serait moi qui l'emporterai. »
Non, pas du tout. Bah non, parce que ça serait l'enfer. Non, il n'y a absolument aucun ego.
Et puis, aucune concession surtout. C'est vrai que je n'ai pas l'impression de devoir abandonner une idée que je trouverais formidable et qui ne lui plaît pas. Non, les bonnes idées en fait, s'imposent d'elles-mêmes à tous les deux.
On le sait. Et s'il a une meilleure idée que moi, il a une meilleure idée que moi. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le livre soit le mieux possible et qu'il nous plaise à tous les deux.
D'accord, mais c'est lequel qui dit « Ah bah j'aimerais bien faire un road trip pour le prochain roman ?»
Bonne question.
Alors ça, au bout d'un moment, très honnêtement, on ne sait plus qui a eu quelle idée. Donc tout
Alors, ce là mélange. C'est particulier parce que pour le coup on a pris une fille en stop, d'ailleurs le roman lui est dédié, oui. il y a en 2014 on a pris une jeune fille en stop qui allait retrouver sa sœur aussi, mais alors
aussi
elle,
jeune qu'Amy.
Pas aussi jeune qu'Amy, et elle allait pas du tout à Los Angeles, évidemment,
et sa sœur voulait pas être playmate
non plus. mais quand même, quand elle est descendue de la voiture, on s'est dit tiens, c'est intéressant comme personnage, une très jeune fille comme ça qui fait du stop. Bon, faut dire, on prend pas mal de gens en stop. Voilà, ça se fait beaucoup
dans le Finistère Sud.
Ouais. C'est ça.
vous l'avez dit, vous êtes aussi traducteur de dialogues de films. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on nous confie, donc un distributeur nous confie un film en anglais. On va adapter donc le dialogue en français qui sera ensuite joué par des comédiens et ça donnera la version française, la VF.
C'est génial ça, mais par exemple.
Là, un des derniers films qu'on ait adapté, c'est Dune, de Denis Villeneuve. Oui. Alors ça, Dune, moi, j'étais ravi de le faire parce que c'est un peu plus ma génération. J'avais vu, évidemment, la première version de David Lynch et j'avais lu le livre quand j'étais ado. Et après, on a enchaîné avec le dernier Scream, qui est un peu plus la génération de Ludovic, qui avait vu tous les épisodes précédents.
C'est beaucoup de cris, Scream.
Ça parle beaucoup. Et les cris, oui, il faut les faire, bien sûr. Les cris sont refaits par les comédiens français.
Parce qu'on ne crie pas de la même façon en Amérique.
Non, les...
Bah, la voix n'est pas forcément exactement la même. Mais même les respirations, ils les refont. Enfin, alors, pas toujours, ça dépend. Si c'est une scène avec que des respirations, on va reprendre la VO. Mais voilà, tout est indiqué en fait, sur la bande rythmo, les petits bruits de bouche.
Oui, les respirations, les inspirations, les expirations. Selon si c'est une inspiration ou une expiration.
Ah, vous écrivez ça aussi ?
Ça, alors, c'est la personne qui est avant nous, qu'on appelle le détecteur, qui écrit tout ça sur la bande.
Ouais. Et qui nous met, en fait, sur la bande qui défile, qui va être jouée par les comédiens, qui nous met tout des tas de symboles qui correspondent aux différents mouvements de la bouche. Et évidemment, on doit écrire aussi, non seulement ce qu'ils disent en anglais, mais il faut que ce soit synchro, donc en fonction des mouvements de la bouche du comédien.
Et en quoi ça vous aide pour écrire un roman en français qui se passe aux États-Unis ?
Bah, on écrit des dialogues depuis, Christian ça fait 20 ans, moi ça fait 15 ans.
Ouais.
Et pour le coup, c'est vrai que tout le monde nous dit que nos dialogues sont bons. Donc,
Je pense que ça a dû avoir une influence et peut-être même inconsciente. Tout le monde nous dit aussi que l'écriture, que ce soit pour le premier ou le deuxième roman, est extrêmement cinématographique. Mmh. Donc j'imagine qu'on a dû inconsciemment ingurgiter des petites choses qui font qu'on écrit de cette façon-là.
Et comment on en vient à traduire des dialogues de films ? J'ai reçu un coup de fil un jour, tiens, tu voudrais pas traduire le dernier
Rocky.
C'est
un peu ça pour toi, enfin.
Oui, c'est un petit peu ça. J'avais une amie qui était comédienne de doublage, donc qui prêtait sa voix à des actrices américaines. Et comme elle partait du principe que je savais écrire et que je parlais anglais, elle m'a dit que ça pourrait te plaire. Donc effectivement, je suis allé voir cette société de doublage. Et effectivement, dès que j'ai commencé, j'ai vraiment adoré ce travail. Donc voilà, c'est le travail que j'ai fait le plus longtemps.
America, c'est votre nouveau roman au Cherche Midi. C'est pas fait exprès, mais on part dans un instant visiter la bibliothèque d'un écrivain qui lui aussi est français, enfin écrit en français, il est suisse, et place ses intrigues aux États-Unis. C'est Joël Dicker, à tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre avec les auteurs d'America, Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Il est l'heure de visiter une bibliothèque, celle de Joël Dicker, qui vient de sortir, vous savez, son nouveau roman, L'affaire Alaska Sanders, chez Rosie Wolf. C'est sa maison d'édition. Alors, il vit en Suisse, c'était pas pratique. Du coup, Stanislas Rigaud nous a prêté la librairie Lamartine à Paris pour fouiller dans les livres de Joël Dicker. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'inviter, très heureux.
Alors d'habitude dans cette séquence, je vais chez les gens pour fouiller vraiment dans la bibliothèque, aller chercher dans la rangée du fond les livres oubliés et tout ça. Bon, mais j'avais pas le budget là pour aller jusque chez vous en Suisse. Et donc c'est vous qui êtes venu à Paris, dans la librairie de notre cher Stan Rigaud, qui fait partie de l'équipe de La Voix au Livre, et qui nous a dit, vous avez les clés du magasin, vous pouvez vous balader où vous voulez, donc on va bien trouver...
Ah
vos
oui.
livres parmi
je
tous
suis
les
pas
livres
très inquiet.
Stan. Mais en plus, c'est sympa parce que vous m'avez ramené quelques livres, 4 exactement, qui viennent de votre bibliothèque. Et en fait, c'est ça ce que je cherche. C'est les livres que vous avez ramenés là en poche, tout jaunis, un peu abîmés. Et il y en a un même, c'est marqué Dicker au crayon de bois, au crayon à papier, sur la première page. Vous marquez tous vos livres comme ça ?
Non, je découvre là avec vous que j'avais mis mon nom dedans. Ça veut probablement dire que je l'ai prêté. À un moment donné, ce qui est rare, je prête assez peu mes livres.
Non, ce qui est rare, c'est que vous voulez y retrouver.
Mais je prête assez peu mes livres parce qu'en général, si j'ai aimé le livre, je le garde précieusement parce que le livre est non seulement le texte est important, mais je trouve qu'en général, l'objet livre représente quelque chose pour moi, comme pour beaucoup de lecteurs. Où est-ce qu'on l'a lu ? Ce qui s'est passé ? Quel moment de notre vie ? Qu'est-ce qu'on vivait quand on a lu ce livre. Et par contre, je note pas. J'annote très très peu, voire quasiment pas. Mais en général, je me souviens assez bien de où j'étais et de ce que je faisais quand j'ai lu ce livre ou un autre livre pour la première fois. Il y a ce rapport vraiment à l'image, hein. Non seulement l'image du livre lui-même, mais se voir soi-même en train de lire ce livre, quand, à quel endroit, à quel moment de notre vie. C'est pour ça que les livres, je pense, sont aussi des éléments constitutifs, ils font partie de la construction de soi.
Alors vous m'en avez ramené, je disais, et je m'étais dit, moi, avec mon flair de journaliste, n'est-ce pas, Joël Dicker, à mon avis, il y a beaucoup de littérature américaine parce qu'on sent l'influence dans ses romans. Et alors, il y en a, mais il n'y en a qu'un seul, et lequel ? C'est Philip Roth, La Tâche. Vous m'avez amené la version poche
qui est toute tachée.
Qui a bien vécu et qui est tachée, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est du café ?
C'est peut-être de l'eau, je pense.
De l'eau ?
Ouais, ça ressemble à une trace d'eau.
Un petit peu vécu. Pourquoi vous m'avez ramené ce livre-là ? Comment vous l'avez rencontré, etc.
C'est un livre que j'ai d'abord rencontré quand j'avais 16 ou 17 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui était encore un peu compliqué pour moi à l'époque, mais je voyais, j'étais aux États-Unis. Et je voyais une dame chez qui j'ai passé quelques jours qui le lisait avidement et qui était passionnée par ce livre. Et j'avais essayé de le lire, j'avais repris et j'avais aimé l'idée du livre. Elle m'en avait parlé un peu, ça me plaisait bien. Ce professeur d'université qui est accusé de racisme contre deux étudiants noirs parce qu'il les traite de spook, de fantômes parce qu'ils ne viennent jamais en cours. Et dont spook en anglais est un mot qui peut être connoté raciste. Et du coup, il est viré de l'université. Ça fait scandale. Et en fait, on découvre que lui-même est noir et qu'il a réussi.
C'est un
toute
roman
sa
hyper
vie.
Moderne aujourd'hui.
C'est hyper moderne. C'est hyper moderne. Hein, quand on pense à ça
donc
aujourd'hui.
Il a une vingtaine, vingt, trentaine d'années. Quoi.
98 peut-être, je dis de tête. Hein, je peux me dire n'importe quoi. On va regarder.
Je ne sais pas exactement.
2000.
2000.
Il est paru en 2000. Et. Et c'est un roman extraordinaire, mais que je n'ai pas pu lire seulement parce que je ne suis pas rentré dedans. Et je l'ai repris des années après. Ah,
ça, c'est intéressant.
Et des années après, tout d'un coup, j'ai été, ça m'a parlé, ça m'a émerveillé, cette histoire, ce récit aussi, hein, ce génie du récit de Philippe Roth qui vous amène, je reprends là, parce que j'adore le début. Hein. À l'été 98, mon voisin Coleman Silk, retraité depuis 2 ans après une carrière à l'université d'Athéna où il avait enseigné les lettres classiques pendant 20 années, puis occupé le poste de doyen les 16 années suivantes, m'a confié qu'à l'âge de 71 ans, il vivait une liaison avec une femme de ménage de l'université qui n'en avait que 34. Et cette phrase m'a toujours passionné dans ce qu'elle appelle de récit, parce que tout est dit dans la phrase. Hein, on a le narrateur qu'on ne connaît pas encore, mais qui est bien là.
Beaucoup d'infos en trois lignes.
Voilà, Roth.
Mais, alors, on a parlé littérature américaine polar, mais en fait, vous m'avez ramené deux Français, des classiques maintenant on peut dire, c'est Albert Cohen et Romain Gary, mais pas les plus connus. Éducation européenne chez Romain Gary et Les Valeureux chez Albert Cohen, par lequel on commence.
Romain Gary, si vous voulez.
Romain Gary, qui est encore un poche un peu jauni et tout. J'appelle ça des poches maison de campagne. Pourquoi celui-là? Vous l'avez depuis longtemps?
Lui,
vous l'avez trouvé chez un bouquiniste?
Non, je l'ai récupéré chez ma grand-mère, je pense, celui-là. Mais
Éducation européenne.
Éducation européenne, d'abord, c'est le premier roman paru de Romain Gary. C'est un roman très important. Gallimard a fait paraître il y a récemment son premier roman qui avait été refusé, qui s'appelle Le Vin des Morts, je crois. Mais sinon, c'est Éducation européenne qui est un roman incroyable sur l'humanité, sur les hommes, qui a une résonance absolument incroyable aujourd'hui, je dois dire, dans l'Europe dans laquelle on se trouve. C'est aussi le roman de ce Romain Gary qui écrit ce livre alors qu'il est pilote, il fait la guerre. Et je lisais, j'ai lu beaucoup de choses sur Gary. Après, on ne sait jamais très bien si c'est la légende ou la réalité de l'homme, parce qu'il a cumulé ces deux casquettes. Hein.
Il a écrit lui-même sa biographie romancée, donc on ne sait plus vraiment. Quoi.
On ne sait plus vraiment, mais on dit qu'il écrivait ce livre pendant la guerre. C'était un écrivain qui avait vraiment envie qu'on le lise. Et donc, il était pris par son roman. Il avait beaucoup d'espoir, et je trouve beau. Hein. Alors qu'il était pilote de guerre, qu'il était occupé à faire la guerre, lui, ce qui l'intéressait, c'était son roman et la postérité. Hein. Ce livre, aller plus loin que la guerre, aller plus loin que le combat, pas se poser de questions, est-ce qu'il reviendrait vivant ou pas, c'était le roman. Et il paraît qu'il y avait dans la cabane où il était, dans sa baraque, avec ses camarades d'armes, il faisait très froid, c'était en plein hiver, et il devait, à tour de rôle, mettre du bois dans le poêle pour que la pièce reste chaude. Et que lui, occupé pendant les nuits à écrire son livre, oubliait de mettre du poêle dans le... Et que lui, occupé toute la nuit à écrire son livre, oubliait de mettre du bois dans le poêle, que ses camarades de guerre se réveillaient le lendemain, ils faisaient glacial et ils l'insultaient. Voilà, c'est un être incroyable. Hein,
Mais alors, c'est les romans de Gary ou c'est l'écrivain qui vous fascine?
C'est les romans. Ce que j'aime dans l'éducation européenne, c'est vraiment l'histoire. C'est Gary me fascine, pardon, il faut juste ça.
Deux, hein,
mais... Ça peut les deux. Non, mais Romain Gary, un homme qui est fascinant, qui va avoir une vie absolument extraordinaire, qui va avoir une vie romanesque. C'est probablement un des rares auteurs qui, selon moi, hein, mais qui vraiment, en tout cas pour moi, qui m'a fasciné autant qu'homme, en tant qu'être humain, qu'en tant qu'auteur. Et dont le personnage m'a fasciné autant que ses propres livres. Et vous l'avez dit avant, mais on ne sait plus très bien si Romain Gary est un personnage de roman ou un homme qui a existé vraiment, tant son histoire de vie est elle-même complètement folle. Pilote de guerre, ambassadeur, deux fois le prix Goncourt.
Avec le pseudonyme d'Émile Ajar.
Oui.
Et alors, Albert Cohen, Les Valeureux.
Albert Cohen...
Souvent dans certaines bibliothèques, ça fait 3-4 fois là en 2 ans.
C'est vrai. Moi, Albert Cohen... Un des plus grands écrivains de langue française, qui est une maîtrise de la langue, une maîtrise de la narration, un écrivain qui, ce qu'on fait plus aujourd'hui, qui prend le temps. Il prend le temps de vous raconter les personnages par leur manie, par qui ils sont, par comment ils se comportent, avec une virtuosité absolument incroyable. De ses romans, on retiendra sûrement
L'Aile
du Seigneur, évidemment, Hommage à Genève. Hommage à la littérature aussi, au roman qui se dévore. C'est le premier roman Belle du Seigneur, que j'ai aussi mis beaucoup de temps à lire parce que je voyais ce gros roman de 1000 et quelques pages dans sa version poche en me disant mais je vais jamais lire tout ça. Et je me souviens que je me disais, oh, plus que 800 pages. Oh non, plus que 750 pages. Et vraiment, c'était un sentiment incroyable. Les Valeureux, c'est un livre qui me touche particulièrement parce qu'il raconte l'histoire de ses cousins emmenés par Mangeclou et puis les cousins qu'on retrouve dans Belle du Seigneur aussi. Les Valeureux, si je ne dis pas de bêtises, devaient d'abord faire partie de Belle du Seigneur. Il a été retranché parce que ça ajoutait encore beaucoup. Il a été retranché de Belle du Seigneur pour être un livre à part entière. Et il raconte l'histoire de ses cousins extraordinaires à Corfou qui vont partir en voyage ensemble à travers l'Europe. Ils partent en bateau, ils vont avoir des aventures incroyables. Ils vont aller voir la reine. Enfin, ils écrivent à la reine. Enfin, il y a tout cet univers absolument fou, absolument incroyable, un peu magique et détonnant de Albert Cohen, qui, je trouve, dans ce livre, nous donne une leçon de ce qu'est la littérature. De nouveau, pour moi, hein, puis je précise, il y a autant de lecteurs que de livres, donc là, je parle uniquement pour moi, mais il nous rappelle que la littérature, pour lui, qui était un homme, au fond, dépressif, qui avait un peu de peine à vivre avec lui, hein, est un homme qui, par la littérature, vit plus fort, rigole. C'est un homme, quand même, quand vous lisez ça, quand vous lisez Où les Valeureux et Belle du Seigneur et une partie de son œuvre, pas tout, mais une partie, vous vous dites, je vais l'inviter à dîner, ça doit être, on doit rigoler toute la journée, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est un des rares, ce livre-là, c'est un des rares livres où j'ai vraiment ri comme jamais et en le lisant. Et je trouve que les auteurs qui vous font rire sont vraiment des auteurs qui réussissent un pari absolument incroyable parce que arriver à faire rire en littérature, c'est très difficile. Pleurer, c'est facile, vous racontez une histoire triste, un petit chien à qui manque une patte et un œil, et puis c'est triste, et puis il pleut, et puis. Mais alors que faire rire, c'est très compliqué.
Vous y arrivez aussi au micro. littérature américaine, littérature française, roumaine aussi d'une certaine manière. Mais vous ne m'avez pas amené un roman suisse.
Non, j'aurais pu.
Lequel, par exemple ?
J'aurais pu vous amener, et là j'ouvre un débat qui va agiter les foyers, attention, j'aurais pu vous amener Le Loup des Steppes de Hermann Hesse, qui est né allemand, mais qui a obtenu la nationalité suisse, prix Nobel de littérature, mais je crois dont les Suisses le veulent suisse et les Allemands le veulent allemand, mais ça aurait été lui.
Et alors pourquoi vous me disiez que ça allait créer une polémique si vous parliez
de ça ? Non, je plaisantais à deux mots. D'abord parce que j'ai dû faire des choix de ce que je vous montrais. Non, je parlais de Hermann Hesse qui était allemand et suisse. Et parce que vous me parliez d'un auteur suisse. Et je disais que si je décrète que Hermann Hesse est suisse, peut-être que les Allemands vont être tristes. Mais Hermann Hesse, de toute façon, est un auteur et c'est ça qui compte. Le Loup des Steppes, livre extraordinaire. En auteur suisse, Dürrenmatt. La Promesse, très grand livre. Jacques Chesset, seul auteur suisse à avoir eu le Goncourt. On a des très bons auteurs. J'ai malheureusement dû faire un choix pour.
Vous avez pensé à lui quand vous avez été sur la sélection Goncourt pour votre premier roman ?
À Jacques Chesset ? Je ne sais pas très bien.
Non, si je veux dire, est-ce que vous avez pensé à vos couleurs ? Est-ce que, comme vous êtes le
bien sûr,
Suisse, c'est que vous.
Bien sûr, parce qu'on est.
En France.
On est, vous savez, on est quand même des porte-drapeaux de nos pays, quoi qu'on fasse, dans la culture, dans le sport. Et c'est justement important d'arriver aussi à montrer, par exemple, que le français, que la francophonie est une construction extraordinaire de toutes sortes de pays qui parlent le français, avec parfois leurs particularités, c'est très bien comme ça. Et je trouve beau de pouvoir faire rayonner une langue à travers un pays aussi. Je trouve que ça n'enlève rien à personne, qu'au contraire, et c'est la force de la Suisse, qui est un pays où on parle quatre langues, qui a une identité morcelée, mais qui a une unité. Et cette unité, elle vient aussi justement de la capacité de vivre ensemble, malgré toutes les différences qu'on peut connaître entre les francophones, les germanophones, les italophones. Et la francophonie a ça de fort, c'est ça aussi. C'est cette idée qu'on a ce français qui nous relie et qui nous caractérise en même temps, puisque le français de France ou de Suisse ou de Belgique ou du Québec ou d'ailleurs n'est pas toujours exactement le même.
Il y a un dernier livre que vous avez apporté. On va finir avec ça. C'est un livre particulier. C'est celui où, où est inscrit à l'intérieur Dicker, justement. C'est un très beau livre, puisque c'est Maus d'Art Spiegelman, qu'on trouve à peu près dans toutes les bibliothèques, selon mon expérience.
C'est vrai.
C'est assez fou. Pourquoi vous nous l'avez apporté en particulier ?
C'est une bande dessinée qui aujourd'hui prend le titre de roman graphique, mais c'est une bande dessinée, la seule bande dessinée à avoir obtenu le Pulitzer, qui est un livre absolument incroyable. Art Spiegelman raconte l'histoire de son père et de sa mère, des juifs polonais. Et il raconte depuis New York, depuis le petit quartier de Rego Park où il habite, où il grandit enfant, il raconte l'histoire de son père en Pologne dans les années 40, la déportation, Auschwitz. Et il le raconte sous une forme très particulière parce que les personnages sont personnifiés par des animaux. C'est-à-dire que les juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, les Américains des chiens, les Français des grenouilles, les Polonais des cochons. Et on peut croire que ça fait un peu comme ça une ménagerie amusante. C'est pas le cas du tout. C'est extrêmement bien fait parce que on oublie très vite ces histoires de personnification. On est dans un roman d'être humain, d'humanité, d'inhumanité. J'aimerais vous dire deux choses sur ce livre. La première, c'est qu'il vient d'être il vient d'être interdit dans une école au Texas. Voilà. Au Tennessee. Et le fait que ce livre soit interdit, alors on pourrait dire que ce n'est qu'une école, il y a des fous partout, mais le fait qu'on entre dans un monde maintenant où la littérature comme ça est interdite, donc il est interdit parce que donc dans Maus, on voit des scènes où évidemment c'est violent.
Et aussi parce qu'il y a des souris toutes nues.
Des hommes et des femmes sont assassinés, ils sont notamment conduits nus dans des chambres à gaz où ils sont assassinés. Et là, tout le monde dit « Ah, mais est-ce que vraiment il faut montrer des gens tout nus ?» Et on est en train de sombrer dans un monde de l'Instagram, du paraître, du gommage, et d'oublier d'où on vient. Et je trouve qu'en oubliant d'où on vient, en oubliant tout ça, en oubliant Maus, l'histoire se répète. Et quand on voit aujourd'hui la situation en Europe, en Ukraine, quand on voit cette crainte, d'abord ce qui se passe, de voir en Europe un pays démocratique qui est envahi, de voir à quel point, qu'est-ce que ça dit, sans entrer dans un débat, et ce n'est pas le but ici. Hein. Mais je crois que ce que ça dit que, au fond, la démocratie est le plus fragile de tous les régimes. Et que la démocratie fonctionne uniquement à la force de ceux qui votent. Pas de nos dirigeants, pas de ceux qui nous gouvernent, mais de ceux qui les ont mis en place, c'est-à-dire nous qui votons. Et ça nous rappelle notre devoir de voter bien, de voter juste, notre devoir d'humanité, notre devoir de ne pas céder, de se battre pour la démocratie. Et je trouve que Maus est un livre important parce qu'il raconte tout ça. Il raconte cette Europe en difficulté, cette humanité en difficulté, et c'est un très grand livre.
Et justement, c'est des censures. Est-ce que c'est dans un coin de votre tête quand vous écrivez ? Est-ce que parfois vous vous êtes dit peut-être pas la peine de mettre ça parce que ça peut éventuellement créer des protestations, ça va casser l'intrigue. Si on parle que de ça, c'est dommage. Ou alors, au contraire, de vous dire « je le mets, et c'est tout, et venez si vous avez envie ».
Alors, je me pose les questions. Je n'en suis pas encore à l'étape de la censure. Mais quand on voit la tournure que prend la censure dans l'édition, notamment aux États-Unis, où on est en train de dire que ne peuvent parler d'un sujet que ceux qui sont directement concernés par ce sujet-là et personne d'autre. Quand on voit la réinterprétation, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand dans un livre vous essayez de dénoncer quelque chose en le racontant, on peut vous accuser d'y prendre part. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous êtes en train de me parler de la censure et à côté de vous se trouve un livre extraordinaire qui s'appelle American Dirt de Janine Cummins. Livre absolument incroyable. C'est un livre complètement fou qui se passe, qui commence au Mexique et qui se passe lorsqu'une mère de famille, qui a une famille où tout va bien, sont à l'anniversaire de la grand-mère, des hommes armés font irruption, massacrent tout le monde. Ne reste survivant que cette mère de famille et son fils. Et les gens qui sont venus sont des narcotrafiquants venus tuer, entre autres, le mari de cette femme, qui est un journaliste qui dérange. Et donc, elle est obligée de fuir. Les flics lui disent « Madame, fuyez, on ne peut rien pour vous ». Elle est obligée de fuir et ça raconte toute cette fuite du Mexique vers les États-Unis. C'est un, C'est un immense livre pour lequel Janine Cummins, qui n'est pas mexicaine et c'est son grand tort, s'est renseignée de façon extraordinaire. Un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe dans le succès du livre? Une tournée de librairie a lieu et là, les foules se lèvent en disant « C'est un scandale, Janine Cummins n'est pas mexicaine, elle n'a pas le droit d'écrire ce livre, la tournée est annulée. » Et voilà comment on marche, et dans ce monde où on marche sur la tête vraiment, où ce livre est empêché, ce livre est écrasé, et où des gens montent au créneau pour la défendre en disant « Mais ce livre est remarquable, et c'est justement toute la qualité de ce livre, c'est que Janine Cummins est allée se renseigner et justement sort de ce qu'elle est pour raconter une histoire d'humanité. » Et c'est quand on voit des choses comme ça qu'on se dit, mais dans quel monde on va? Alors, faites un acte militant.
Elle-même a été obligée de faire un acte de contrition. De contrition. En disant, ah oui, oh, peut-être, Dieu,
je suis désolé, oh là là, je peux pas.
Mais on lui reproche rien dans ce qu'elle dit en plus.
Mais c'est
et
ça.
Même dans la manière dont elle décrit.
C'est ça qui convient, vous avez raison, c'est ça. On ne lui reproche absolument rien dans ce livre. La seule chose qu'on lui reproche, c'est de ne pas être mexicaine et de raconter un pan terrible de la vie des Mexicains, de l'histoire du Mexique qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est contre ça qu'il faut se lever. Hein. C'est vraiment affligeant.
Merci beaucoup, Joël Dicker.
Merci à vous.
On va quitter la librairie. À bientôt.
À bientôt avec plaisir. Merci.
Retour à Europe 1 et je rappelle l'affaire Alaska Sanders. C'est le nouveau roman de Joël Dicker chez Rosie Wolf. Christian Niemiec et Ludovic Manchette, les auteurs d'America avec un S entre parenthèses à la fin, c'est au Cherche Midi. Vous vivez dans le Finistère Sud, entre Paris et le Finistère Sud.
C'est ça.
Mais vos livres, ils sont où? Et est-ce que vous en avez et comment vous les rangez?
Alors, on en a beaucoup. On en a même énormément.
En Bretagne, plutôt ?
Les deux,
d'accord.
Ouais, plus en Bretagne, quand même. Et je ne sais pas si on peut parler de rangement, c'est plutôt des piles.
Zones.
Ouais, il y a des zones, voilà. Il faut un peu enjamber.
C'est-à-dire, une fois que les bibliothèques sont pleines, il faut les poser quelque part. Donc
sur des banquettes, sur un buffet,
en table basse.
Voilà, c'est ça. Tout ce qui peut servir de support est utilisé.
Et vous savez où retrouver un livre?
Bien sûr.
Oui, alors que c'est pas du tout, même dans la bibliothèque, c'est rangé un peu.
Oui, il n'y a pas de classement alphabétique ou selon l'époque à laquelle on l'a lu, ou couleur, ou je ne sais
pas.
Ou
les pays, ou rien du tout.
Non, c'est vraiment.
Là où il y a un trou, on met un livre. Et
voilà.
Il faut quand même se lever tôt quand vous cherchez un bouquin en particulier, quoi. Ou alors vous savez vraiment où ils sont tous.
J'ai un très bon sens de l'orientation.
Dans les livres.
Ouais.
Eh bien, vous trouverez peut-être encore de quoi la remplir, cette bibliothèque. Nous partons dans un instant au Salon du Livre de Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle Les Visionnaires. C'est pour le week-end prochain, mais on en parle tout de suite.
La Voix est Livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est Livre continue toujours avec les auteurs d'America. Et nous recevons maintenant Alain Junès, vice-président à la culture de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Monsieur Junès.
Bonjour Monsieur Carreau.
Exceptionnellement pas de libraire cette semaine parce qu'on voulait parler de ce salon qui s'appelle Les Visionnaires. C'est le 1er et le 2 avril prochain. Et qu'est-ce que c'est Les Visionnaires?
Alors l'idée a été de réunir un certain nombre de personnalités qui pense au monde de demain. Oui, en effet, des romanciers, puisque c'est un salon du livre, mais aussi des acteurs de la société civile, des chefs d'entreprise, des philosophes, des sportifs.
Il y a des conférences, j'imagine, ouais. Des rencontres, comment ça se passe?
Absolument, il va y avoir des temps forts avec des rencontres. L'idée, c'est d'aborder plusieurs thèmes. Par exemple, que sera la ville demain? On voit par exemple qu'avec la pandémie du Covid, il y a des phénomènes de migration à l'extérieur des villes. Les villes sont devenues invivables à cause du confinement. Donc il y a une volonté de mettre de la chlorophylle dans sa vie. Mais est-ce que la chlorophylle, ça suffit? Pas forcément. Et l'idée, c'est de repenser la ville de demain, de rendre à nouveau peut-être les villes attractives. Alors avec le travail des urbanistes, des architectes, mais aussi des entreprises. Et penser un petit peu à la France de demain, la France qui fait partie de ce monde qui avance très vite.
Donnez-nous envie un peu, on pourra rencontrer qui là-bas?
Ah bah vous allez pouvoir rencontrer Jérôme Fourquet, Gaspard Koenig, Bruno Patino, Michael Christie qui va venir aussi, Il y aura Isabelle Cocher, qui est l'ancienne DG d'Engie, pour les notamment pour le forum sur les entreprises de demain. Antoine Frérot, le PDG de Veolia.
D'accord, c'est vraiment pas que les romanciers, quoi. C'est pas purement littéraire.
Alors, c'est pas purement littéraire, mais c'est très littéraire. Il y a quand même 90 auteurs qui vont être invités. Là, je vous citais les personnes qui vont animer notamment les débats sur la société de demain, sur le livre de demain, et sur les villes de demain, pardon. Et donc, voilà, il y aura un nombre incalculable d'auteurs que vous pourrez. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet donc, de 50 ans en Yvelines. Alors, je vais vous peut-être le donner, c'est important, c'est ski.fr/lesvisionnaires. Et là-dessus, vous allez pouvoir, sur ce site, vous allez pouvoir donc, vous inscrire, vous allez pouvoir avoir accès à tout le programme. Et puis, vous pourrez aussi voter pour le premier prix du roman de Saint-Quentin en Yvelines.
Et il y en aura d'autres, j'imagine, puisque vous êtes dans la tournée vers le futur. En tout cas, la première édition du Salon du Livre de Saint-Quentin en Yvelines, Les Visionnaires, c'est le 1er et le 2 avril prochain. Merci beaucoup.
Venez nombreux, c'est gratuit, c'est pour toutes les familles. Et c'est important de le dire, c'est pour toute la famille. Il y aura des animations pour la jeunesse, pour la famille.
Et c'est un partenariat européen. Merci beaucoup Alain Junès.
Merci à vous Nicolas.
Retour dans les studios avec Christian Niemiec et Ludovic Manchette pour leur nouveau roman « Cherche Midi America », un road trip d'une jeune fille, une préadolescente, et qui pourrait être intéressée par les romans que propose Héloïse Goy, notre chroniqueuse jeunesse qui vient de nous rejoindre. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas, bonjour messieurs.
Quel est le programme ?
Aujourd'hui, deux livres. D'abord, un album qui aidera vos enfants à aller dormir. Je sais que ça peut être précieux pour certains parents. Et puis ensuite, un livre très ancré dans l'actualité avec l'histoire d'un petit garçon qui vit à l'Élysée. Alors, on commence avec le premier livre. Ça s'appelle Rose, Nils et le Poupounou dans la jungle. C'est signé par la journaliste Laurie Choleva, qui est aussi sur notre antenne. Et
Madame
les illustrations... Cinéma. Oui, dans Clap, exactement. Les illustrations sont de Mademoiselle Moons. Alors, je vous propose de me suivre dans la jungle tropicale. On entend un petit son d'ambiance derrière.
Le montage et tout, c'est bien fait. Hein.
C'est là, dans une petite maison perchée en haut des arbres, que vivent Rose, Nils et leurs parents. Alors, la journée, cette jungle est un terrain de jeu gigantesque, vous l'imaginez, hein, pour ces deux enfants qui découvrent tous les jours des nouveaux animaux, comme des porcs-épics ou des caméléons. La nuit, en revanche, interdiction de s'aventurer en dehors de la maison, ce serait beaucoup trop dangereux. Alors quand Rose et Nils n'ont pas sommeil, eh bien ils demandent à leur doudou, Poupounou, de jouer avec eux. Et bien sûr, même s'ils n'ont pas le droit, de les emmener se promener dans la jungle. Démarre alors une très belle aventure pour tous les trois. Rose et Nils découvrent des animaux qu'ils n'avaient jamais vus la journée, comme des perroquets, des crocodiles, des orangs-outans ou bien des éléphants. Alors heureusement, tous ces animaux sont endormis, parce que sinon ils seraient un petit peu trop dangereux. Sauf un qui n'est pas du tout endormi et qui va tellement ficher la frousse aux enfants qu'ils vont préférer rentrer Fissa au lit. J'ai beaucoup aimé le sens des détails, du détail de l'illustratrice. Vous pouvez regarder, chaque page mérite plusieurs minutes d'attention pour observer la nature et les animaux qui sont parfois très réalistes. C'est un conte doux, onirique, pour bercer et faire voyager les petits juste avant de dormir.
Ludovic Manchette, là, il est dans la jungle. Là, il est en train de propulser le livre. On l'a
vous voyez le sens des détails. Je vous le laisse. Ça s'appelle Rose, Nils et Poupounou dans la jungle de Laurie Choleva et Mademoiselle Moon, c'est chez Grund. On change de décor, on change d'univers.
Main sur le cœur.
Absolument, je vous propose de faire connaissance avec Paul dans ce livre qui s'appelle Le Palais de Paul. C'est écrit par Benjamin Muller et illustré par Mathieu Sapin. Alors Paul, il a 7 ans, il est en CE1, il aime les petites voitures, manger du chocolat et faire des blagues. Jusqu'ici, rien de très original, à ceci près que son papa est président de la République, d'où la Marseillaise. Paul vit donc depuis ses 3 ans à l'Élysée. Et c'est plutôt pratique l'Élysée parce qu'il y a un immense jardin, une salle de cinéma et même un chef cuisinier qui lui fait des gâteaux rien que pour lui. Vous commanderiez quoi comme gâteau, vous, Nicolas ?
Saint-Honoré.
Ben voilà, je suis sûre que c'est possible à l'Élysée. Et alors, malgré une déco un petit peu vieillotte, eh bien, il peut coller des posters sur les murs de sa chambre et se construire un lit cabane. Et ça n'a pas de prix. Mais vous l'imaginez, il y a tout de même 2-3 inconvénients à vivre dans ce petit palais présidentiel. Déjà, Paul n'est jamais tranquille. Il y a toujours des journalistes, des conseillers, des policiers. Et les policiers, ils l'empêchent de faire des vraies bonnes grosses bêtises, vous voyez. Et c'est compliqué quand on a cet âge-là. Et puis l'autre problème, eh bien, c'est que la plupart des présidents qui viennent rendre visite à son papa, ils sont un peu vieux. Et du coup, ils ont des enfants qui sont trop vieux pour jouer avec Paul. Et ça, c'est pas rigolo. Alors le jour où son papa demande à Paul s'il serait d'accord pour qu'il se représente et redevienne encore 5 ans de président de la République, le cœur de Paul balance. Je vous laisse découvrir sa réponse dans le livre. Ce petit livre, il est formidable parce qu'il nous montre à quel point l'Élysée, enfin, il nous montre l'Élysée à hauteur d'enfant. Et puis, c'est drôle, malin, divertissant. Et à quelques semaines des élections présidentielles, je ne peux que vous le recommander, messieurs.
On rappelle le palais de Paul et l'autre ?
Et l'autre, c'est Rose, Nils et le Poupounou dans la jungle de Laurie Choleva et Mademoiselle Moons. Et celui-ci, le palais de Paul, c'est de Benjamin Muller, qu'on connaît pour ses chroniques dans les maternelles. Et Mathieu Sapin, c'est chez Flammarion Jeunesse dans la collection Castor Roman.
Merci beaucoup, Héloïse. Ludovic Manchette, Christian Niemiec, est-ce que vous vous souvenez du premier roman que vous avez lu jusqu'au bout ? C'est-à-dire, vous l'avez fermé en vous disant, ça y est, j'ai lu un livre en entier.
Moi, c'était pour l'école, hein, parce que je lisais plutôt des bandes dessinées quand j'étais petit, mais c'était quand même assez jeune, hein, je devais avoir 9 ans, je crois, et c'était, si je me souviens bien, l'appel de la forêt de Jack London. Ouais.
Ceci explique cela, peut-être.
Ouais.
Et moi, le premier souvenir de livre qui m'est emballé, c'est Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne. Donc, un voyage aussi, c'est bizarre.
Non, mais il n'y a pas de secret, hein, tout se construit là. America, c'est votre nouveau roman au Cherche Midi, qui est d'ailleurs sélectionné pour le prix Maison de la Presse, magnifique prix. Merci beaucoup d'être venu dans la Voix.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeche pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.